Et nous étions toujours sur Zacharie, chapitre 14. Nous avons lu cela tout à l'heure. Zacharie annonce en somme un jour dernier, un jour enténébré, froid, glacial, unique, qui est le passage d'un temps à un autre. Il y a donc un jour de l'Éternel, ce fameux jour de l'Éternel, est un jour particulier, qui n'est ni jour ni nuit. Il faut qu'il soit ainsi, on se demande même, si c'est un jour de 24 heures, si les heures s'écoulent normalement comme les autres jours, le Seigneur, lui, est capable de dérégler même l'écoulement du temps, et ce qui le marque. Donc, en ce jour, finit la patience de Dieu et le temps de la grâce. C'est le jour où tout s'arrête. C'est fini la patience de Dieu pour vis-à-vis du péché et du pécheur. C'est fini. Le temps de la grâce est clos. L'homme ne pourra plus faire sa volonté. Il ne le pourra plus. Désormais, seule la volonté de Dieu s'accomplira, c'est-à-dire qu'on va entrer dans l'ordre parfait, dans la justice. Je vous ai dit que la justice était l'ordre parfait sur lequel Dieu règne, et cet ordre parfait fonde l'éternité. Alors, ce sera aussi fini de l'orgueil, fini de l'oppression, fini du mensonge, de l'hypocrisie, et du meurtre. Pourquoi la ville de Jérusalem est-elle prise? Eh bien, nous l'avons déjà indiqué tout à l'heure, parce que les Israélites, devenus les fidèles disciples de Jésus-Christ, ne voudront plus user de leurs armes, et ils vont s'en remettre entièrement au Messie. Voilà les nations coalisées qui viennent contre Jérusalem. D'ailleurs, il nous est bien dit que je rassemblerai les nations, et c'est donc Dieu qui veut cela, que les nations viennent faire ce qu'elles ont toujours eu dans leur cœur, toujours désiré faire. Alors qu'elles viennent, elles se rassemblent, et le peuple, lui, ne se défend pas. Que fait-il? Il s'en remet à son Seigneur, il prie. Leurs ennemis se rendront donc très facilement maîtres de la ville. Ce sera très simple. Ils n'auront pas eux-mêmes besoin de combattre. Ils vont entrer et se rendre tout de suite maîtres de Jérusalem. Et alors, c'est pourquoi nous voyons, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Voyant bien qu'ils n'ont plus rien à craindre des Israélites qui ne se défendent pas, qui se laissent prendre sans la moindre riposte, alors ils se mettent tout aussitôt à prier, à faire ce que bon leur semble, selon leur mauvais dessein. Mais l'Éternel va exercer son jugement sur ces nations rassemblées contre Jérusalem, et c'est lui qui les a conduits et qui va par conséquent les châtier. Les assaillants de la ville se livreront aux pires actions, et une moitié des habitants ira en captivité. Pourquoi cela? Ça nous étonne. Pourquoi la totalité des habitants de Jérusalem n'est-elle pas sauvée? Eh bien, il faut que les nations païennes mettent le comble à leurs exactions et à leur haine contre Israël. Mais, sans doute, doit-on admettre que certains habitants ne sont pas, eux, couverts par la grâce du Seigneur. Il n'est pas dit que tous les habitants de Jérusalem se sont convertis. Il y a peut-être soit des Israélites, ça semble peu probable. Mais peut-être d'autres personnes à Jérusalem, il n'y a pas absolument que des Juifs, n'est-ce pas? Alors, il est possible que certains habitants ne soient pas couverts par la grâce du Seigneur. Cependant, la captivité ne sera qu'une démonstration de la dureté des assaillants, car elle ne pourra même pas durer un jour. Elle ne durera même pas un jour. Elle durera quelques instants, peut-être, puisque l'Éternel ne tardera pas à frapper, en ce même jour, à frapper les peuples venus combattre contre Jérusalem. Et il nous est dit ceci, « Leur chair se décomposera alors qu'ils seront encore vivants. » Je prends ici une autre version que la version second, qui nous dit que leur chair tombera en pourriture. Le mot n'est pas peut-être d'un très bon choix. Disons d'une façon plus exacte que leur chair se décomposera, alors qu'ils seront encore vivants. Vous savez ce que fait le Seigneur ? Il retire son souffle de vie. Il y a un psaume qui nous dit ça, au sujet des animaux. Si le Seigneur retire son souffle de vie, tout rentre dans la poussière, c'est-à-dire que tout se minéralise. En somme, si nos tissus humains, les tissus de notre corps, restent vivants, c'est parce que le souffle de vie est en nous. Le souffle de vie pour le corps, n'est-ce pas, par l'âme qui anime la vie physique d'abord, eh bien, le souffle de vie est là, mais lorsque l'âme s'en va, le souffle de vie s'en allant, les tissus reviennent à leur état premier, si vous voulez, leur état d'autrefois, ils retombent dans la minéralisation quand vous laissez un corps dans la terre. Un temps plus ou moins long après, mettons quelques années, vous pouvez déterrer ce corps et vous trouvez des os, c'est tout, la chair a complètement disparu, il n'y a plus rien du tout, c'est redevenu poussière de la terre. Alors là, leur chair se décomposera alors qu'ils seront encore vivants, leurs yeux pourriront dans leurs orbites, de même que leur langue dans leur bouche. En ce temps-là, le Seigneur les remplira d'une panique épouvantable. Ils se tourneront les uns contre les autres et chacun attaquera son voisin. Voilà les armées assaillantes, une fois qu'elles auront pillé, pendant quelques heures, quelques petites heures, qu'elles auront fait des prisonniers. Hein? Alors là, ils se mettront à se battre les uns contre les autres, il y aura un désaccord entre eux, et puis le Seigneur les châtiera de cette manière-là. Par conséquent, même ceux qui ont été faits prisonniers seront forcément libérés. L'Éternel paraîtra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui se fendra dans le sens ouest-est. Vous savez que la montagne des Oliviers, elle-même, a une direction nord-sud, à peu près. Et elle se fendra donc par le milieu, dans le sens transversal, c'est-à-dire ouest-est. Et cela fournit aux Israélites une voie de délivrance. Cette voie s'étendra, nous dit notre texte, jusqu'à Hazel. Hazel, c'est un mot hébreu qui signifie côté, voisinage. Il y a bien une localité qui s'est appelée Hazel, mais ça ne correspond pas à ce qui nous intéresse ici. Donc, je pense que le terme est pris selon sa signification. C'est-à-dire, ira jusqu'au voisinage. Quel voisinage ? Jusque au voisinage de Jérusalem, c'est-à-dire que du centre même de Jérusalem, on pourra, allant dans la direction de l'Est, on pourra trouver cette route et l'on pourra emprunter cette voie, cette route, pour s'échapper vers l'est, en passant dans la faille qui s'est constituée en plein milieu de la montagne des Oliviers. Et alors, les Israélites, s'enfuyant par cette route, passeront au pied du Seigneur. Les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers. Il sera donc au-dessus, là, n'est-ce pas? Voyez la chose, le Seigneur, à quelque hauteur, je ne sais pas combien, n'est-ce pas, là, sera là, et à ses pieds, sur cette route qui s'est ouverte, défileront les Israélites. Les Israélites convertis qui n'ont pas voulu employer leurs armes. Cette prophétie merveilleuse rappelle le passage de la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Là, c'était la mer qui s'était fendue et qui avait livré passage aux Israélites pour échapper à l'armée du Pharaon. Ici, c'est la montagne qui se fend. L'apôtre Paul nous dit dans la première aux Corinthiens que les Israélites, dans ce passage, ont été baptisés en Moïse. Eh bien là, en reprenant cette expression, ils seront baptisés en Jésus, c'est-à-dire que Jésus ne sera directement leur libérateur. Et là, les Israélites vont comprendre une chose indispensable pour la suite, c'est qu'ils n'ont d'autres défenseurs, ni d'autres sécurités que en leur Messie, en leur Sauveur, Jésus-Christ. Cette délivrance sera la dernière. On ne dira plus déjà, n'est-ce pas, la Bible nous avertit qu'il y a un moment, et ce moment est arrivé, on ne dira plus, on ne rappellera plus le passage de la mer Rouge, mais on parlera de cette délivrance, la délivrance dernière. Nous avons au verset 6 du chapitre 14 ceci. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Chapitre 14, verset 6. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi, été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Le jour de l'Éternel est donc un jour sombre, de semi-obscurité, mais la lumière paraîtra vers le soir. Le Seigneur étant là, donc on peut admettre que c'est vers le soir de ce jour, oui, que paraîtra le Seigneur. Alors le Seigneur paraissant, il apporte la lumière. Vous voyez, voilà un jour qui est éclairé par la présence du Seigneur. Et la lumière elle-même a une signification, l'apparition de la lumière, c'est l'aurore du jour nouveau, l'aurore annoncée d'un jour nouveau. Après le jour de l'Éternel, donc, il y aura un temps nouveau qui commencera tout aussitôt, le lendemain, si on peut dire, de ce jour, commencera un temps nouveau, et aussitôt, la lumière sera vive. Et le prophète Ésaïe nous dit qu'elle sera sept fois plus grande que la lumière d'aujourd'hui. Je vais vous lire ça dans le chapitre 30 d'Ésaïe. Chapitre 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière de sept jours. Voyez. Et actuellement, je vous assure, si Vous voyez, quelquefois, là-dehors, nous avons une couverture d'arbres ici. C'est bien, mais si on est en plein soleil, au milieu du jour, on a besoin de lunettes de soleil. Nos yeux ne supportent pas déjà la pleine lumière. Pas toujours. Eh bien, cette fois plus, on ne la supporterait pas maintenant. Nous ne pourrions pas la supporter, nous serions aveuglés. C'est considérable, ça, comme la lumière de 7 jours, 7 fois plus forte. Au moment de la création, le premier acte créateur de Dieu avait été que la lumière soit et la lumière fut. Là, le premier acte créateur, c'est celui qui crée la lumière. La lumière vient toujours en premier. Elle prélude à un nouvel ordre de choses. Et pourquoi nous, dans l'Église, nous devons être des enfants de ténèbres, de lumière, des enfants de lumière, des enfants éclairés. Et quand nous sommes en contestation, que ce soit pour une chose ou l'autre, quand nous raisonnons, eh bien, alors là, nous sortons de la lumière et nous rentrons dans nos ténèbres. Dans les ténèbres de la terre, on ne fait que ça, on ne fait que contester, que raisonner. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ entrera dans son office de roi de toute la terre. Aucune divinité, ni aucune autorité opposée ou étrangère ne subsisteront. La démocratie dont on nous parle souvent, que revendiquent nos hommes politiques, n'est-ce pas, quand ils ont besoin de se couvrir surtout de quelque chose, dire attention, voyez, nous sommes dans le vrai, n'est-ce pas, nous sommes dans la fidélité républicaine, n'est-ce pas, la démocratie. Même quand ils font des choses contraires à la démocratie, ils invoquent quand même la démocratie, n'est-ce pas? Ben, cette démocratie est épouvantable. Comprenez qu'on ne peut pas arriver à quelque chose de bien quand vous avez d'un côté la gauche, de l'autre côté la droite, hein, et quand la droite dit quelque chose, la gauche conteste, et non seulement elle conteste, mais elle dit que c'est tout mauvais. Tout ce que la droite fait est mauvais. Et inversement, quand la gauche est au gouvernement, la droite dit que tout ce qu'elle fait, c'est absolument mauvais. Alors, comment voulez-vous arriver quand même à faire quelque chose qui soit sage dans des conditions comme ça? La démocratie, c'est, quelqu'un l'a dit, c'est le moindre mal dans les conditions de la terre maintenant. Bon, je veux bien que ce soit le moindre mal, mais ce n'est pas un bien. Et la démocratie n'aura plus cours. Pourquoi? Parce que la vérité est une. Il n'y a ni gauche ni droite dans la vérité. Elle est une. Et c'est elle qui constituera la charte du temps nouveau. Et puis, il y aura eu, juste avant la venue du Seigneur Jésus, l'ébranlement de la terre. L'ébranlement de la terre aura précédé le retour en gloire du Seigneur, et il aura fait de la terre un champ de ruines. Et cela est nécessaire pour que la terre soit purifiée des ouvrages des hommes et des pollutions qui sont graves aujourd'hui. Ils sont très graves, tout est pollué, la mer est polluée, c'est excessivement grave. Alors cet ébranlement, il faut tout de même bien que nous en ayons quelques notions. Il est assez nettement annoncé dans plusieurs passages des Écritures. Prenons Ésaïe par exemple chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Alors ici, le jour n'est pas un jour de 24 heures, ce qui arrive quelquefois dans la prophétie. Le jour, c'est le temps assez court du tout dernier moment. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa gentillesse, pour sa malice. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Ah, vous savez, l'orgueil, nous l'avons déjà dit, est une chose abominable. C'est la persistance de la chute en Éden. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Il n'y aura plus tellement d'hommes sur la terre quand le Seigneur Jésus reviendra. Je ne pense pas qu'on puisse les compter au moyen de l'unité actuelle du milliard. Le nombre sera réduit, je ne sais pas jusqu'où, mais enfin il sera réduit. Je les rendrai plus rares. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. J'ébranlerai les cieux et la terre. Ébranlerai. La terre entière va être ébranlée. Vous savez, ce ne sera pas drôle, hein? Je ne vous souhaite pas d'être ici. Je souhaite à personne d'être à ce moment-là, là. Pas même à moi, n'est-ce pas? Non. Il faut vraiment avoir pris l'échappatoire de l'enlèvement auparavant. Hein? Voyez, il faut être parti avec le Seigneur. Hein? Il faut être parti. C'est pour ça que nous allons considérer ce que signifie être prêt. Et puis, nous avons encore 51. 51, verset 4. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples, ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Les termes sont catégoriques. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Je vous dis, le Seigneur viendra sur un champ de ruines. Pour l'instant, c'est les mouches. Ce sont les mouches. Bon. Mais ce sera... les habitants périront comme les mouches. Alors, c'est quelque chose d'effroyable, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas émus pour les mouches, mais nous sommes émus pour les habitants de la terre. Et les cieux s'évanouiront comme une fumée. Nous allons revenir aux cieux. L'Épître aux Hébreux, son chapitre 12, je ne vais pas prendre le passage, rappelle cet ébranlement de la terre et des cieux. L'Apocalypse, au chapitre 16, nous avons étudié cela, signale aussi un tremblement de terre énorme comme il n'y en a jamais eu et qui détruit les villes, qui modifie la topographie aussi du sol, qui fait disparaître des îles, qui en fait apparaître d'autres. Enfin, c'est un mouvement de l'écorce terrestre considérable. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'atmosphère. l'atmosphère. Nous avons lu que les cieux s'évanouiront comme une fumée. L'atmosphère. Notre atmosphère, actuellement, est souillée, très souillée. D'abord parce qu'on envoie des engins, n'est-ce pas, qui consomment des quantités énormes de carburant et qui remplissent l'atmosphère de toutes sortes de déchets de combustion, qui d'ailleurs ont le tort aussi d'emporter de l'oxygène et de l'hydrogène en dehors de notre atmosphère. Vous savez que nous, dans notre atmosphère, nous vivons dans une boîte. Nous vivons en vase clos. Hein? Alors, pour actionner ces fusées énormes, n'est-ce pas, on prend des quantités d'oxygène liquide, d'hydrogène liquide, mais alors, les quantités de gaz qu'il faut pour remplir les réservoirs d'oxygène et de liquide et d'hydrogène liquide, bah, sont énormes. Et puis alors, tout cela s'en va, hein, en dehors de notre limite. Notre limite, c'est la haute atmosphère, et s'en vont au-delà de notre limite, du voile d'ozone, et cet oxygène est perdu dans le vide là au-dessus, est perdu. Hein? Alors nous appauvrissons notre atmosphère en oxygène et en hydrogène, encore l'hydrogène, bon, peut-être y a-t-il d'autres sources. Et c'est peut-être moins grave à première vue, mais l'oxygène, c'est grave. C'est excessivement grave. Et puis enfin, n'est-ce pas, notre atmosphère est souillée, elle est tellement souillée que assez souvent, dans des grandes villes, s'il y a notamment une sécheresse prolongée, la cote d'alerte est atteinte. Dans les grandes villes, par exemple à Paris, il y a des appareils et qui jauge constamment l'état de l'atmosphère et qui donne l'alerte. Et assez souvent, ces appareils signalent justement un taux de pollution qui dépasse tout ce qui peut être admis. Même ce qui est admis n'est pas très réjouissant. Bon, alors, donc, l'atmosphère ne peut pas être conservée pour le millénium. Et c'est ce que nous montre le prophète Ésaïe au chapitre 34 et au verset 4. Chapitre 34, verset 4. « Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. » Alors, toute leur armée qui tombe, qu'est-ce que c'est que cette armée-là? Qu'est-ce que c'est que ces étoiles, cette pluie d'étoiles dont parle? Autrefois, on se disait, c'est pas possible, si les étoiles dégringolent sur la terre, boum, alors là, qu'est-ce que nous allons devenir? On est écrasés, nous. Mais aujourd'hui, on comprend ceci, leur armée. L'armée, c'est un terme du traducteur, cela. On pourrait en admettre d'autres. Tout ce qui est là autour de la Terre, toute la quincaillerie qui est là. Il y a des satellites en quantité avec tous les débris des satellites les plus anciens qui sont là en train de tourner sur nos têtes, n'est-ce pas? Si nous pouvions nous aventurer sans protection dans l'atmosphère comme ça, que soyons capables de monter, on montera vers le Seigneur. Mais à ce moment-là, il aura écarté tout ça, n'est-ce pas? Bon, eh bien, on risquerait de se cogner la tête 10 fois sur des engins, sur toutes sortes d'engins. Il y a toute une quincaillerie épouvantable, hein? Et qui ne se consume pas parce que elle est au-dessus de l'atmosphère dense. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, la Bible est inspirée, la Bible sait très bien quel sera l'état de choses au dernier moment, et il nous est dit, là, que toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre. Alors, l'atmosphère actuelle, on va la rouler, l'enlever pour en mettre une autre. Merci Seigneur. un air respirable, un air compatible avec le renouvellement de la terre qui va se produire. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est également signalé dans Apocalypse 6 aussi. L'atmosphère que l'on roule, comme on roule un livre. Autrefois, on se demandait ce que ça pouvait être, ça, que les cieux seraient roulés comme on roule un livre. Et puis, maintenant, nous comprenons très bien. On ne peut pas garder cette atmosphère. Quels sont les premiers actes du Seigneur lorsqu'il arrive sur ce champ de ruines qu'est la terre? Eh bien, le premier acte, c'est de saisir la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'Antichrist, et son éminence grise, le faux prophète, et pour il les jette vivants dans l'étang ardent de feu. Il les jette vivants. C'est-à-dire, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Des hommes. L'Antichrist est un homme en lequel Satan a pris place. Alors, il les jette vivants dans les temps de feu. C'est ce que nous dit Apocalypse 19, 20. Le deuxième acte sera pour lier Satan pendant 1000 ans. Apocalypse 20. Versets 1 à 3. Lier Satan pendant 1000 ans. Le troisième acte du Seigneur sera celui d'un jugement. Un jugement. Le jugement dont il nous a parlé lui-même, le Seigneur, et qui est consigné au chapitre 25 de Matthieu. Vous connaissez cet admirable passage, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes, voyez, ils sont appelés les justes, ceux-là. Les brebis sont appelés les justes. Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Et t'avons-nous donné à manger ? Ou soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, les hommes, non pas les juifs seulement. » Il y en a qui interprètent ça parce que Jésus est juif, alors ses frères, c'est les juifs. Mais alors il suffirait que ces gens-là, dont il est question au dernier moment, aient fait du bien à des juifs. S'ils avaient fait du bien à d'autres que des juifs, ça n'entrerait pas en ligne de compte. Oh, c'est absolument ridicule. Il y a des interprétations qui sont assez souvent révoltantes. Alors que Jésus dit bien dans les Hébreux, alors qu'il est bien dit pour lui, qu'il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. Et tous les hommes ses frères. Bon, alors, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, un homme quelconque sur la terre, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, en somme, ceux qui sont là, n'est-ce pas, et qui sont dans le clan des brebis, s'étonnent que le Seigneur leur dise « Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous êtes venus me voir, Il s'étonne, mais quand avons-nous donné à manger, à boire, quand t'avons-nous vêtu, quand t'avons-nous visité, et sous-entendu, mais Seigneur, on ne t'a jamais vu, on ne t'a jamais rencontré, on ne te connaissait pas. C'est, en effet, ça c'est un jugement pour les hommes qui n'auront pas connu le Seigneur. Forcément, au moment où le Seigneur viendra, il y aura des hommes qui n'auront pas, quoi qu'on fasse maintenant, n'est-ce pas, avec les missions et l'Évangile, il y aura forcément des hommes qui n'auront pas entendu la prédication de Jésus, tout au moins une prédication solide, une prédication véritable. Hein. Bon, alors, quand avons-nous fait ces choses? Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, les hommes, c'est à moi que vous les avez faites. En somme, là, il y a un jugement sur la base, si vous voulez, des œuvres. Mais pas tellement des œuvres, sur la base des dispositions de cœur. Sur la base des dispositions de cœur. Voilà des gens qui voyaient la misère, le dénuement, le malheur des malades, des prisonniers, et qui étaient secourables. Hein? Bon, parce qu'il y avait quelque chose qui le leur disait. Comme dit Paul, la loi, en quelque sorte, était écrite dans leur cœur. Ils avaient un cœur bon, un cœur qui voulait secourir. Et alors, se fondant là-dessus, le Seigneur les classera parmi les brebis. Et alors, à la fin, il leur dira ceci, les justes iront à la vie éternelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, le Seigneur Jésus les justifiera. Parce qu'on ne peut pas aller à la vie éternelle sans être justifié par le Seigneur, mais le Seigneur sera là avec la rédemption dont il a lui-même la disposition, et il justifiera ces hommes à ce moment-là. Il les justifiera sur la base des sentiments qu'ils auront manifestés au milieu des hommes. Puis alors, il y a l'inverse, les boucs, n'est-ce pas, qui, eux, n'ont pas donné à manger, n'ont pas donné à boire, n'ont pas visité, etc., etc. Ils ont fait tout le contraire. Hein. Alors, eux aussi vont dire, mais quand avons-nous manqué à ces choses? Chaque fois que vous ne les avez pas faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez refusées, à moi que vous ne les avez pas faites. C'est merveilleux comme passage. Seulement, attention, ça n'intéresse pas les chrétiens. Ça nous intéresse aussi de savoir que la lecture nous intéresse et la disposition du Seigneur, évidemment, nous fait chaud au cœur. Mais ça ne nous intéresse pas, nous-mêmes, nous ne pouvons pas être de ceux à qui le Seigneur tiendra ce langage. Ceux qui ont entendu prêcher le Christ, alors là, ont dû faire un choix. Eux, ils sont, c'est le choix qui sera déterminant. Hein, pour nous, c'est le choix. Ou bien, nous refusons Jésus. Bon, si nous le refusons catégoriquement, peut-être pas à la première annonce, mais enfin, d'une façon générale, nous refusons Jésus, bon, ben, c'est classé, maintenant, nous sommes bons pour la perdition. Mais si nous choisissons Jésus, nous sommes bons déjà, maintenant, pour la vie éternelle. Donc, ça n'intéresse pas l'Église, ça intéresse les gens qui seront sur la terre et qui n'auront pas entendu la prédication de Jésus. Il y en aura certainement, on ne peut pas faire que tous les hommes, les enfants même, les vieillards, tout le monde, absolument sur tout le globe, est au dernier moment pu entendre la prédication de Jésus. Nous verrons que l'Évangile est très répandu maintenant sur la terre, mais il y aura forcément des gens qui devront être jugés comme nous voyons là. Alors ça, c'est le troisième acte. C'est une sorte de triage. En somme, séparant l'ivraie du bon grain. Vous vous rappelez la parabole du Seigneur dans Matthieu 13, séparer l'ivraie du bon grain. Le Seigneur mettra ses seins à l'œuvre. Ensuite, n'est-ce pas, il mettra ses seins à l'œuvre. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Dit Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent. Qu'est-ce qui va s'asseoir sur les trônes? Ben, nous savons que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres que lorsque lui-même serait assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, mes apôtres, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire vous gouvernerez les 12 tribus. Mais là, est-ce uniquement les apôtres ou y a-t-il les saints de l'Église aussi? Ça n'est pas précisé, mais enfin, il y a des trônes. La base de ce jugement, donc, est l'attitude à l'égard des autres, du prochain qui souffre ou du prochain qui est démuni. Les œuvres montreront le fond des cœurs. Et puis, après cela, le capitulable. Le Seigneur procédera au rétablissement de toutes choses. J'ai déjà prononcé le terme, la palingénésia, le nouvel engendrement. Première raison qui nous apparaît tout de suite, le Seigneur est là, il ne va pas rester sur un champ de ruines, première chose. Puis deuxième chose, il vient là assurer le triomphe du plan de Dieu, eh bien, ça ne peut pas se terminer sur une débâcle, parce que après le... à la fin, n'est-ce pas, de la période de 7 ans, là, à la fin des fléaux, c'est le spectacle est celui d'un échec, d'une débâcle, et le plan de Dieu ne peut pas se terminer là. Il faut donc que tout soit restauré. La terre va être restaurée dans l'état où elle était avant la chute. Avant la chute. Bien des textes nous le disent. Nous les verrons un peu. D'abord, voyons, ce n'est pas bien la peine, dans Acte 3, l'apôtre Pierre parle de ce rétablissement de toutes choses, le rétablissement de toutes choses. Mais la palingénésia figure surtout dans Matthieu 19. Matthieu 19, verset 27. Matthieu 19, verset 27. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, oui. C'est bien ça. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et Pierre, il est bien préoccupé de l'avenir, hein. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, alors dans le grec c'est la palingénésia, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, c'est-à-dire le trône de David, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Or, ne soyons pas en alerte sur le terme ici, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Il ne s'agit pas d'abandonner et de ne plus voir les gens de sa famille. Il s'agit d'être libre à leur égard pour suivre en toute priorité le Seigneur Jésus. Il s'agit d'être libre, n'est-ce pas? On ne peut pas, quand on est à Jésus, ne supporter encore la contrainte que les membres de la famille, à quelque titre que ce soit, voudraient encore exercer sur vous. Ça, il faut être libre, entièrement libre, vis-à-vis d'eux. Hein. et même aller jusqu'à haïr sa propre vie, c'est-à-dire à ne plus aimer sa propre vie telle qu'on la vivait, pour la perdre, en somme, perdre sa vie, pour la remettre au Seigneur Jésus. Nous avons alors maintenant des tableaux qui nous sont donnés par le prophète Ésaïe, essentiellement, au chapitre 51 d'Ésaïe, lisons au verset 15. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Et là, ça c'est dans la mission de Jésus. Dieu d'avance lui a précisé cela. Il devra étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. C'est lui qui manie, si je puis dire, qui utilise le pouvoir créateur selon les plans de Dieu. Puis alors, nous avons Ésaïe 65, le passage qui est bien connu, 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, heureusement. » Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Il y a des gens qui mourront, la mort n'est pas encore détruite. C'est à la fin du millénium qu'elle le sera. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ô Seigneur, si c'était déjà le moment. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est parce que de notre côté, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a bien dit que ceux qui l'aiment vraiment et qui demeurent dans son amour peuvent demander ce qu'ils voudront, demander ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, si nous n'avons pas les exaucements de prière que nous désirons, ben, c'est que nous ne demeurons pas pleinement dans l'amour du Seigneur. Voilà. Hein? Mais là, vous voyez, au cours du millénium, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Mais quelquefois, ça s'est produit, ça. Ça s'est produit. Ça s'est produit, moi je l'ai vu plus d'une fois, peut-être pas dans des choses toujours très importantes, mais dans pas mal de choses. Quelquefois, le Seigneur se montre ainsi, rapide, dans l'exaucement de désirs ou de petites prières, de prières concernant des choses de l'existence assez limitées. Mais ça je l'ai vu. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier pour une certaine chose, n'est-ce pas? Bon, et puis, alors, je priais, et puis, alors, il y a quelqu'un qui vient me trouver, et puis qui me dit, frère, mais vous savez ce qui s'est produit il y a déjà 10 minutes, il y a telle et telle chose. C'était ce que j'étais en train de demander au Seigneur. Ça y est, c'est fait. C'est déjà fait, c'était déjà fait. Oui, ça peut arriver, ça. Ça nous est arrivé une fois à Père Guillot aussi. Il y avait un garçon d'une vingtaine d'années qui était épileptique et qui avait eu une crise dans la nuit. On avait fait venir le médecin qui lui avait fait une piqûre. Bon, et puis le lendemain, vers 10 heures, on l'avait expédié à l'hôpital. Sur la prescription du médecin. Et alors, j'apprends qu'il était le 8e enfant d'un foyer et les 7 premiers d'un foyer alcoolique. Et les 7 premiers étaient morts. Il était le 8e. Hein, il avait 20 ans. Bon. Alors, on se dit, l'épilepsie, on voit, n'est-ce pas, un petit peu d'où ça vient, hein, le pauvre. Hein. Bon, alors, il était parti à l'hôpital et je réunis un certain nombre de frères et de sœurs dans la salle pour prier pour lui. Alors, nous étions là, en train de prier pour sa délivrance, pour sa guérison, n'est-ce pas. Et puis, vous savez, quelquefois, à Père Guillot, ça y allait. Hein. Ça, c'était la lutte, vraiment, une lutte magnifique. Et alors, les prières allaient bon train, et moi j'étais là au bureau, puis la porte d'entrée était en face. Tout à coup, je vois, je dis, mais c'est le garçon, c'est lui qui est là. Il est là dans l'encadrure de la porte, qu'est-ce qu'il fait là? On est en train de prier pour lui, pour sa délivrance. Alors je vais voir, je dis, mais comment ça se fait que vous êtes là? Ben, il me dit, les médecins m'ont mis dehors. On mis dehors. Alors pourquoi vous ont-ils mis dehors? Comment ça se fait? Eh bien, ils m'ont tous examiné, ils étaient 3 ou 4 à venir m'examiner, et puis après m'avoir examiné longuement, ils m'ont dit, mais il n'a plus rien ce garçon, il n'a rien du tout, allez, renvoyez-le. Alors ils m'ont renvoyé, me voici. Alors j'ai dit, frères et sœurs, arrêtez de prier, nous sommes exaucés, c'est fait, nous avons l'exaucement. Et depuis, ce garçon n'a plus jamais eu de crise d'épilepsie. Donc, vous voyez que les choses peuvent déjà se faire maintenant. Je vous dis, les conditions du millénium, Dieu voudrait qu'elles soient établies déjà dans l'Église. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ma montagne sainte, c'est-à-dire la terre entière. Alors voilà un magnifique tableau de la restauration de la terre. Alors là, nous voyons bien qu'on est toujours quand même dans les conditions de la terre. Il n'y a pas la procréation est toujours là. Des gens ont des enfants. Il y a aussi des vieillards. Sommes encore dans les conditions de cette terre. Ce n'est pas la nouvelle terre, ça. Seulement, elle sera la palingénésia, le rétablissement de toutes choses nécessite l'action du pouvoir créateur. C'est pourquoi il est dit « Je vais créer ». Alors, c'est un merveilleux tableau. Mais nous allons voir, nous verrons en détail le renouvellement de cette terre. Nous verrons ce qu'elle est, l'atmosphère, la lumière, nous en avons déjà parlé, la suppression des déserts, il n'y aura plus de déserts sur cette terre. Il y aura l'abondance, la luxuriance. D'une façon générale, la terre sera comme le Liban autrefois, un jardin merveilleux, un vrai jardin d'Éden. La terre resplendira de la gloire de Dieu et il y aura même une alliance avec les animaux. Une alliance avec les animaux. En effet, nous avons 2 textes là-dessus. Il y a d'abord le prophète Osée, chapitre 2 et verset 20. Chapitre 2, verset 20. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Nous avons vu d'ailleurs dans le chapitre 65 d'Ésaïe que le lion a perdu tous les animaux sauvages, féroces, ont perdu leur férocité. Un enfant peut mettre sa petite menotte dans la gueule du lion, sans aucun dommage. Magnifique ça. Bon, eh bien, il y a une alliance avec les animaux. Puis il y a un autre texte dans le Nouveau Testament, qu'il faut absolument prendre en compte, c'est Romains 8, Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle. Alors, la création, ça comprend toutes les formes de vie sur la terre. Ça comprend même le support inanimé qu'est la terre. Il n'y a pas de vie sans son support, sans ce qu'on peut appeler la biosphère. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la destruction, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, l'homme par sa désobéissance, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la création, il y a les animaux là-dedans aussi, il y a les plantes, les animaux, qui vont reprendre l'état dans lequel ils avaient été créés. Eh bien, c'est un tableau magnifique, évidemment, et nous aurons l'occasion de voir ensuite ce que sera la condition nouvelle des hommes dans le millénium. Bon, eh bien, je pense que nous allons nous arrêter là.